Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, créativité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à se composer une vie choisie, épanouissante et impactante en profondeur. Bref, une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent dans une impasse, bloqué sur le rond-point du choix et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler sa situation et repartir confiant dans sa capacité à avancer concrètement. Et enfin la conversation, où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante, une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager ma conversation avec Sandra Meunier. C'est grâce à une conviction et à une posture que nous partageons que le chemin de Sandra et le mien ont eu la bonne idée de se croiser. Si on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix du regard que nous portons sur ce qui nous arrive. Et nous pouvons toujours choisir la manière de transformer ce qui nous arrive. Sandra est art-thérapeute, créatrice de joie, Nétoile, et la créatrice de l'association Nétoile. Parce que la maladie renferme les malades, Sandra a choisi, forte de son parcours et de sa sensibilité à l'art et à l'autre, d'intervenir à l'hôpital pour apaiser et amener de la joie dans des moments de détresse ou de souffrance. Pour cela, Sandra fait intervenir son personnage, Annabelle, une elfe clown, une nétoile. Et elle a aussi fait le choix de former des nétoiles. Alors, une nétoile, qu'est-ce que c'est ? En fait, les nétoiles, ce sont des personnages fantastiques d'une beauté étrange et lumineuse qui aident les grands malades à quitter l'obscurité de leurs angoisses le temps d'une rencontre merveilleuse, qui les aident à voir la vie de plus haut et à vivre des instants de joie, de légèreté et de paix. Sandra donne également des conférences, spectacles, des formations à destination d'équipes soignantes et elle intervient également auprès des enfants dans les écoles pour leur apprendre à cultiver leur joie intérieure. Bref, Sandra a fait le choix de cultiver la joie, de la transmettre et de la réanimer quand les circonstances l'ont fait disparaître des radars. Jusqu'ici, j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup de raisons de fréquenter les hôpitaux, comme patiente ou comme accompagnatrice. Mais en tant qu'hypersensible, j'ai souvenir de nombreux moments de vulnérabilité, voire de frayeur, les miens et ceux des personnes que j'accompagnais, et de la difficulté à trouver l'espace pour exprimer cette vulnérabilité et pour être accueillie en tant que personne. Être regardée, être écoutée en tant que personne et non en tant que patiente, cela m'a parfois manqué à l'hôpital. Et c'est toujours ce que j'ai essayé d'apporter en tant qu'accompagnatrice ou visiteuse de quelques heures. De l'humanité, de la reconnaissance, la lumière d'un sourire, la douceur d'un regard, ou encore la puissance d'une main proposée. Alors, converser ensemble autour des thèmes essentiels que sont le choix, la joie, la vie, la mort et l'importance de vivre avant de mourir, cela a été une évidence. Et d'ailleurs, depuis notre conversation, j'ai entamé ma formation de Nétoile avec Sandra. Une évidence là aussi. Et il me tarde de découvrir où mon chemin de Nétoile va me mener. Au cours de notre conversation, Sandra et moi parlons entre autres du parcours de Sandra et de son merveilleux personnage Annabelle, de la vie, de la mort, du choix de sortir du drame et de la grande joie. Du pouvoir lumineux de la beauté, du merveilleux et de la grâce, ou encore d'espace et d'univers, de rencontres et de tout ce qui nous transforme. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Bienvenue dans Avez-vous choisi? Je suis ravie de t'accueillir. On va parler bien sûr du choix et on va parler de joie, qui est un thème qui nous tient très à cœur à toutes les deux. Donc, pour commencer, de formation, tu es art-thérapeute et puis de dénomination, tu aimes dire que tu es une créatrice de joie. Donc, j'aimerais savoir comment tu as choisi d'exercer ce métier. Comment c'est arrivé?
D'abord, je pense que c'est une prédisposition, puisque depuis que j'étais enfant, je voulais aider. Alors après, comment j'ai choisi ce métier? Je pense que ça m'est tombé dessus. Si ce n'est que je voulais réunir l'art et le soin. Et donc, je me suis formée en art-thérapie. Alors après, de me former en art-thérapie et après d'aller à l'hôpital, ça c'est encore... C'est une intuition, c'est de me dire, bah justement, on parlait de la question du choix, on va déjà la mettre au centre. J'ai eu l'impression que peut-être qu'à un moment donné, on a moins le choix. En tout cas, quand on est hospitalisé, cette question de la souffrance, de la perte de joie, de ne pas avoir le choix, en fait, de faire ce qu'on veut de ses mouvements, ça m'a semblé être un endroit pertinent pour aller redonner de la joie. Donc, je ne savais pas encore comment le faire. Après, c'est vrai que tout s'est fait au fur et à mesure de ma vie. La question de l'art-thérapie, après la question de... Une fois que je me suis formée en art-thérapie, j'ai vu que j'avais un lien avec la joie. J'ai vu que j'avais un lien avec l'énergie du merveilleux. Enfin, je dis j'ai vu parce que en fait ça me caractérisait, mais ça a été un focus. En fait, quand on fait une formation, on se déploie et je me suis déployée d'une telle sorte que j'ai senti vite que ce qui m'intéressait, c'était la question d'avoir de la joie et de la perdre et de la retrouver et de la perdre. Voilà, cette question-là était centrale. Et puis après. Après, je me suis déployée aussi et j'ai créé un personnage. Tout de suite après ma formation, d'ailleurs, je suis devenue Annabelle. Donc, ce personnage elfique, fantastique, merveilleux, issu du clown. Au début, j'étais encore plus clown. Après, j'ai commencé à devenir un peu une étoile. Au début, j'étais très clown. Et ouais, je ne sais pas si... Enfin, c'était une évidence, en tout cas.
Et comment est-ce que est né justement ce sentiment très aigu, cette conscience très aiguë de justement la qualité d'attention à porter à la joie et probablement au fait que c'était quelque chose à cultiver, à nourrir, à réveiller régulièrement.
Alors, quand on parle de joie, j'ai envie de parler de non-joie et moi-même, je l'avais perdue. En tout cas, je l'ai perdu. J'ai perdu, en tout cas, j'ai perdu quand même une façon d'être au monde joyeuse et légère à l'adolescence. Oui, oui. J'ai connu des états dépressifs, voire une dépression. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce qu'à l'époque, je n'avais pas été diagnostiquée, mais j'allais vraiment pas bien. Et puis après, mais j'ai toujours eu un socle de joie. Quand je dis que je n'allais pas bien, j'ai vraiment vécu des états dépressifs, même avoir envie de mourir. Hein. C'était quand même très fort. Et puis en même temps, j'ai eu l'impression, quand je me connectais à la nature, d'avoir des grandes joies. Donc j'avais accès aux grandes joies, mais c'était après le quotidien où là, je pouvais me sentir perdue et puis une vraie réflexion sur quel est le sens de tout ça, quoi. Et puis après, à 20 ans, j'ai un grave accident. Alors, je ne peux pas dire que j'ai perdu la joie, mais quand même, ma vie qui bascule, j'ai failli mourir à 20 ans. Donc, je me fais très, très mal physiquement puisque je suis tombée. Et j'étais dans le coma et je reviens à la vie, amochée. Et tout de suite, je voulais prendre soin de ceux qui venaient me voir. Je voulais pas justement qu'ils perdent la joie en voyant. Et je pense que tout ça a quand même a conditionné le fait qu'après, je retourne à l'hôpital des années plus tard. Une dizaine d'années plus tard, c'était moi qui allais faire sourire ceux qui étaient allongés. Mais j'ai connu l'expérience d'être allongée. Donc en fait, cette question de... Non, et puis aussi, non, je dois revenir encore plus tôt, je dois revenir aussi à l'enfance où j'ai été traumatisée par la mort de ma grand-mère. Et en fait, la question de la mort est arrivée vers 7 ans, en tout cas cette réflexion, mais on meurt. Et en fait, je ne peux pas dissocier ma présence au monde de la question de la mort. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe quand on va mourir? Cette grande question métaphysique. Et plus je me suis apaisée par rapport à la mort, plus j'ai trouvé la joie, et plus j'ai arrêté de différencier vie et mort d'ailleurs.
Oui, parce que moi, ce que j'entends, c'est que à la fois par ton expérience d'abord, puis par ton travail aujourd'hui, tu choisis du coup de mettre les sujets essentiels de l'existence à la fois au centre de la table et au centre de la conversation. Et puis quelque part, je trouve que tu invites à coupler la conscience de notre finitude, hein, ce que tu viens d'évoquer, et aussi à l'attention, à la joie de l'instant présent, justement, ce que tu évoquais de cet ordre du merveilleux dans ce qu'on vit là, maintenant. Donc, quand tu l'as mentionné, tu interviens depuis un peu plus de 20 ans maintenant dans les hôpitaux, notamment, auprès des grands malades et des personnes en fin de vie. Comment tu parviens justement à proposer et à créer des espaces de joie possibles dans ces lieux et puis dans ces circonstances très difficiles?
Mais d'abord parce que dans tout ce parcours de vie, j'ai senti que la plus grande joie, elle n'était pas dans le faire, elle était dans l'être. Alors, donc une fois qu'on sait ça, et une fois qu'on sait en plus que les plus grandes joies, elles sont souvent quand on ferme les yeux. En tout cas, les plus grandes joies sont intérieures. Oh, bah, avec ce bagage-là, quand on a cette connaissance-là, je l'ai dans mon être, cette connaissance, forcément, c'est celle que je vais amener à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, j'essaie de dédramatiser. Le plus important pour moi, c'est sortir du drame. Parce qu'on pense toujours que c'est un drame de mourir ou un drame d'être très malade. Alors, bien sûr que c'est important. Et pour autant, ce n'est pas un drame. Il y a un enseignement derrière. Donc je me suis rendu compte assez vite quand même que c'est la conscience qui change tout. C'est-à-dire que si les personnes pensent qu'on est dans un monde fini et qu'il n'y a pas d'espace infini, ça va être difficile hein, pour moi de donner de la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est offrir un espace infini. Donc là, je parle quand même de la grande joie. Hein. Je n'arrive pas. Enfin, dans mon métier, j'arrive pas à parler de la petite joie. Quand je dis la petite joie, ça veut dire qu'il y aurait des plaisirs, il y aurait des sourires, il y a déjà le plaisir d'être ensemble, de se rencontrer. Bon, voilà, ça, c'est la joie, on va dire, quotidienne. Et moi, j'ai envie d'amener l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, ça veut dire quitter le quotidien pour être dans la grande joie. Parce que souvent, dans le quotidien, on ne la trouve pas, cette grande joie. Ou alors, d'un seul coup, elle nous submerge, on se dit, mais waouh, ah, je suis vraiment bien d'un seul coup, là. Ah, mais peut-être que c'est ça, la joie. Et quand je vais voir les personnes à l'hôpital, je vais essayer d'être je suis un docteur de la joie et je suis chercheur de trésors. C'est comme ça que je me propose. Je dis bonjour, je suis chercheur de trésors. Et le trésor, c'est de faire cette enquête pour découvrir comment se manifeste cette joie. Et je me suis rendu compte que c'était en lien avec le sacré. Donc, je vais mettre un contexte, un dispositif même de questions et de merveilleux par les musiques, par mon personnage, qui j'amène aussi dans la fantaisie, mais pour connecter ce qui est sacré chez la personne. C'est ça les grandes joies en fait. C'est le sacré. C'est le sacré. Mais je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais l'amener parce que mon personnage est sacré en moi.
Et bien justement, si on veut s'assurer, d'après ce que tu nous partages là, si on veut s'assurer de bien vivre avant de mourir un jour, c'est quoi selon toi le meilleur entraînement à choisir de suivre et à veiller à poursuivre en fait tout au long de son existence?
Enfin, je dois dire que j'aime pas du tout donner des leçons, mais je peux amener des réflexions. Et en plus, on est quand même brassé par tout cet événement du Covid. Et je dois dire que si on veut trouver de la joie, et c'est un entraînement pour la vie, c'est de ne pas être axé sur le résultat déjà. Et vraiment, la grande joie, c'est le contentement. Alors après, est-ce qu'on arrive à être dans le contentement au quotidien? C'est bien ça la question. Mais l'entraînement, oui, l'entraînement, c'est l'entraînement au non-résultat. Et pour autant, c'est désirant, hein, ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on s'efface et je ne dis pas qu'il faudrait être morne ou terne. Au contraire, le contentement, c'est de se dire… Tiens, en ce moment, je suis privée de ça, par exemple. Et qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve de plus? Qu'est-ce que la vie m'offre de plus puisqu'elle me retire quelque chose? Et donc, pour moi, l'entraînement à la joie, c'est à chaque fois de sentir ce qu'on nous enlève et ce qu'on retrouve à la place. Et donc, c'est prendre le temps, bien sûr, d'une intimité avec soi, c'est-à-dire d'être dans le silence, d'être… Et de se connaître aussi, on va se découvrir au fur et à mesure de sa vie quels sont les endroits des grandes joies. Personnellement, c'est la nature, donc je vais avoir besoin de sortir un petit peu, être connectée avec les arbres, avec le… Oui, avec la nature, c'est une grande joie pour moi. Mais donner aussi est une grande joie. Pour moi, créer est une grande joie. Donc, c'est s'entraîner en tout cas à être privé. Ouais, je crois que c'est ça en fait, l'entraînement à la joie. Parce qu'en fait, on va être sans arrêt frustré. La vie ne va pas nous donner ce dont on a besoin, enfin, notre rêve premier, on va dire. Et si ce n'est pas un rêve premier, c'est parce qu'il y en a un deuxième encore plus grand. Mais on ne nous donne pas encore le deuxième. Alors, ça fait beaucoup, là. Ah ouais, mais il y en a encore un plus grand. Donc, c'est s'entraîner à chaque fois. Mais quel est le rêve le plus grand? Et quel est le rêve le plus grand? Et derrière, il se cache encore un rêve le plus grand. Et quand on commence à accéder à ce plus grand, à un moment donné… Le rêve, c'est de se confondre avec ce tout. Enfin, forcément, pour moi, les grandes joies, c'est quand même à un moment donné qui est moins possible d'ego et que je sente moins ma présence, mais que je sente une grande présence, on va dire. Mmh. Ça paraît un peu métaphysique tout ce que je dis, mais c'est mon rapport à la joie, en fait.
Oui, parce que moi, ce que je partage de ce que tu dis là aussi, c'est cette la joie comme… comme l'état, presque l'état premier,
oui.
Qu'on recherche à nouveau de manière récurrente. Et je crois que tout l'enjeu, effectivement, c'est cette… Tu as évoqué l'enjeu de la conscience. Oui. C'est à quel point on ne subit pas les joies qui nous arrivent, mais plutôt on aiguise à la fois notre curiosité et notre capacité à aller explorer les conditions qui singulièrement vont générer de la joie en nous et pour nous, et comment est-ce que derrière on devient acteur et actrice pour générer en fait non pas forcément la joie mais à minima les conditions qui vont permettre à la joie de jaillir en fait.
Mais je pense qu'on est très responsable de notre joie et ça il faut jamais l'oublier. Enfin c'est exigeant en fait cet état de joie parce qu'en fait si on se laisse aller, on peut se laisser aller par des pensées, on peut se laisser happer par une tristesse, on peut s'accrocher en fait à des émotions douloureuses. Alors qu'en fait le chemin c'est sans arrêt cette bascule, c'est ce retournement, c'est s'habituer à se retourner. Comment je fais pour me retourner? Donc ça, c'est une habitude à avoir au quotidien et c'est bien ce que je fais à l'hôpital, ce retournement. J'ai envie de dire que le retournement, c'est cette question du choix. C'est par exemple, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je choisis de faire à ce moment-là? Je ne vais vraiment pas bien. Là. Je dis quoi? Alors, j'écoute une musique triste, par exemple, et je vais aller loin dans cet espace de tristesse et je vais pleurer, ce qui est en parenthèse très libérateur aussi. Hein. Ou à un moment donné, je choisis peut-être d'écouter une personne qui va me permettre de changer de fréquence, de changer d'état de conscience. De quoi je vais me nourrir? Et c'est Eckhart Tolle qui en parle beaucoup de est-ce qu'on nourrit le corps de souffrance ou est-ce qu'on nourrit un autre espace en nous? Et j'ai envie de dire, mais arrêtons de nourrir notre corps de souffrance. Et j'en ai bien conscience des fois. Par exemple, je ne vais pas tellement bien et je sens bien que je peux basculer. Et puis commencer aussi à regarder un film qui me mettrait dans une ambiance pas tellement agréable. On le sent bien énergétiquement que ça ne va pas nous favoriser un état d'être de plénitude. Il est là le choix. De quoi on se nourrit? Et moi, je suis très sensible à la nourriture. De quoi on se nourrit? Est-ce qu'on se nourrit de beauté, de grandeur et de grands espaces? Ou alors, on va nourrir l'espace qui ne va pas bien et on va le remettre en boucle et on va bien voir tout ce qui ne va pas en ce moment. Mais il est là le choix. Donc pour moi, en tout cas, c'est cette recherche au quotidien d'identifier et essayer de lâcher, en fait, c'est de lâcher prise en permanence. Qu'est-ce que je peux lâcher de moi et quelle nourriture je peux trouver pour être plus heureuse? Ouais, c'est le travail, hein. Mais c'est un travail.
Ah
Hein.
ouais.
Ouais.
Et là, effectivement, je te rejoins complètement. C'est aussi sous cet enjeu autour de dissocier finalement les circonstances qui nous arrivent, qui parfois nous arrivent brutalement. Et tu, ô combien tu dois le voir aussi dans les, voilà, dans les lieux où tu te déplaces, dans les hôpitaux, où tu rencontres des grands malades et des personnes en fin de vie qui sont dans des souffrances physiques et psychologiques qui peuvent être intenses et qui sont là et qu'on ne conteste pas, bien évidemment. Et en même temps, là aussi, il y a un espace pour créer de l'espace finalement entre l'événement et notre manière de nous positionner et finalement cette paire de lunettes qu'on peut choisir de chausser. Et voilà, j'adhère complètement à cet enjeu de la nourriture, de qu'est-ce que je vais aller nourrir, comment est-ce qu'en fait, en étant conscient qu'il y a une différence entre ce qui m'arrive et comment je le vis, comment je le nourris, eh bien, je peux choisir d'y injecter ce que je veux et je peux choisir ce que je vais en faire. Comment est-ce que je peux transformer cette matière-là pour en faire quelque chose de nouveau et le retournement dont tu parles, en fait.
Mais complètement. Mais je dois dire qu'il faut savoir aussi que des fois, on n'y arrive pas. Et cet espace d'humilité, il faut l'avoir. Parfois, c'est difficile. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai amené cette fonction à l'hôpital, parce que je me suis dit, et j'ai pensé aussi à moi, parfois je n'ai pas les ressources, mais est-ce que ce ne serait pas merveilleux quand j'ai plus les ressources, quand je ne sais plus comment me nourrir, qu'à un seul coup une personne merveilleuse, habillée en printemps, actuellement en tout cas, et qui arrive et qui vienne me dire, mais est-ce que tu as été voir les bourgeons des fleurs? Et d'un seul coup, qui me permettent ce retournement. Et ça, c'est vraiment précieux. Apprendre à se retourner soi, c'est une chose. Apprendre à retourner l'autre, c'en est encore une autre. Mais plus on a l'habitude aussi de ce chemin et cette bascule intérieure, plus après, on peut le faire. Et je dois dire aussi que tout ce qui est de l'ordre de la respiration, pour ça, je dis aussi que je suis respirateur d'hôpital, mais tout ce qui permet de se sentir plus ample, et la respiration en fait partie, ça peut être aussi une clé, en fait, pour aller mieux. Oui, respirer et bien entendu méditer. Sachant que la méditation, c'est pas toujours… enfin, ce n'est pas que le silence. Je ne sais pas comment on peut se représenter la méditation. C'est aussi un état, oui, de pleine conscience, hein, et de pleine présence. Et c'est une grande joie, ça. Et ça, quel que soit… quels que soient les événements extérieurs, on peut expérimenter la joie d'être. Et j'ai eu la chance, mais vraiment c'est une chance, de rencontrer des patients qui ont pu me montrer que c'était possible. Parce que sinon, on peut dire, oui, mais d'accord, elle dit ça, mais elle n'est pas malade, et ceci et cela. Oui, mais non, j'en ai rencontré qui acceptaient de lâcher cette souffrance. Enfin, en tout cas, psychique, parce que physique, ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec les médicaments, mais… À un moment donné, dire bon, alors, mais qu'est-ce que j'ai là? Et en fait, j'ai tout. Je suis. Donc, la question de je suis, à la mettre au centre. Oh, non, mais. Et là, c'est un basculement. Et moi, je veux dire, j'irai pas bien. On me remet dans. Mais qui es-tu? Et tu es bien plus que ta peine, tu es bien plus que ce corps qui souffre, tu es bien plus que tout ce que tu traverses. Oh, merci, je l'avais oublié. On a le droit d'oublier. On peut l'oublier. Et ça m'arrive de l'oublier. Et alors, en fait, c'est pas que ça m'arrive de l'oublier, mais des fois, je suis empêtrée dans mes émotions. Et ben d'accord. Et ben, je vais aller voir une vidéo avec un enseignant, bon, je dirais spirituel, ou alors une danse qui va me toucher, et je vais me sentir plus grande en regardant cette danse. Hein, bref, en tout cas, je vais pas rester statique. Je vais pas me laisser faire. Pas se laisser faire, en fait. Mais la dépression, c'est aussi à un moment donné, on se laisse faire. On n'a même plus le courage d'y aller, quoi.
Et justement, puisqu'on parle de ce chemin finalement où on remet constamment notre travail hein, sur l'établi, on n'est jamais arrivé. Et c'est pas parce qu'on a trouvé à un moment donné comment activer la joie qu'on sait le faire de manière définitive. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de ne pas être donneur ou donneuse de leçons. Je te rejoins complètement là-dessus. Et tu évoquais l'importance des questions. Est-ce que tu as remarqué, alors tu évoquais la question qui es-tu, qui suis-je, qui peut être aussi une question qui peut faire peur et qui peut créer le vertige pour des personnes qui justement jusque-là ne se sont peut-être pas posé cette question-là frontalement. Est-ce que tu as identifié une, deux ou trois questions peut-être qui permettent justement d'amorcer cet éveil de la joie, cette réflexion, cet espace en fait, créer cet espace possible de la joie, donc tout en étant à la fois dans la dans quelque chose de très presque philosophique et en même temps très concret qui invite les personnes qui jusque-là n'avaient pas fait ces réflexions-là à s'y engager.
Oui, il y a des questions qui peuvent être récurrentes. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment la rencontre. Et s'il y avait des questions qui faisaient basculer, ça se saurait. Donc, c'est forcément en lien avec la personne. Et en général, j'essaie d'écouter mon intuition. Mais d'une manière générale, en tout cas, interroger sur qu'est-ce qui te rend plus grand. Il y a quelque chose qui te rend plus grand. Ça marche bien. Il y a une musique, quand tu l'écoutes, qui te rend plus grand. Plus grande. C'est pas une musique que t'aimes bien. Non. Ah non, non. Est-ce qu'il y a un endroit, quand tu y vas, tu te sens plus grand, plus grande? Et à partir du moment où je pose ce genre de questions à une personne, mais qui en est complètement déconnectée, enfin, qui vit une réalité où tout est petit, tout est enfermé, et à un moment donné, moi j'arrive et j'ouvre, qu'est-ce qui te rend plus grand? Déjà, l'espace du cœur, il s'ouvre, ça c'est certain, mais ce n'est pas tout de poser une question, il faut la faire vivre, cette question. Et c'est pour ça que je parle souvent d'écoute créative, créactive. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une écoute où je vais faire de l'écoute bienveillante qui est la reformulation. À partir du moment où j'ai cette information sur l'endroit qui te rend plus grande, par exemple toi, mais je t'emmène. On ne va pas perdre beaucoup de temps à bavarder. En fait, ce que j'aime bien faire pour amener les joies, c'est quitter le bavardage. Les gens sont souvent dans le bavardage. Et ça n'a pas d'intérêt, le bavardage. Enfin, voilà, on se raconte un petit peu, c'est cela, mais... Alors, j'ai envie de dire, il faut couper le bavardage. Alors ça, c'est une certitude. Et même des fois, je coupe la plainte. Ça peut être violent quand je dis ça, mais une personne, si elle commence à se plaindre, je vais la prendre pleinement, cette plainte, parce qu'ils ont besoin. Et moi-même, quand j'ai besoin de me plaindre, j'aime bien qu'on m'entende. Et puis, à un moment donné, la plainte devient un ressassement. Attention, et la plainte devient une descente. Et quand on est dans une pente comme ça, non, je stoppe. Et c'est là où je peux dire, mais oui, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui te rend plus grand? Et là, je ne vais pas la lâcher. Parce qu'elle pourrait repartir dans la plainte. Non, oui, mais d'accord, mais là, maintenant, là, tout de suite, si je te dis, qu'est-ce qui te rend plus grande? Et de cette écoute, cette proposition, là, je l'emmène. Et puis parfois aussi, ça peut être, mais viens, on respire et viens... Ou alors, j'ai une intuition. Ce sont des questions aussi, mais ça peut être intuitivement, je vais aussi lui proposer une phrase. J'aime beaucoup les phrases d'ouverture, les phrases qui font voyager. Et même des fois, j'interroge les personnes aussi. Bah, par exemple, ça peut être ça une question, c'est est-ce que tu as une phrase ressource, une phrase quand vraiment dans la vie, ça ne va pas du tout? Est-ce qu'il y a une phrase qui, quand tu l'as dit, elle te fait monter? Et en fait, souvent, les gens ont cette phrase, mais ils ne se sont jamais posé la question. Et puis, cette phrase, ben, on va la faire voyager. On peut la mettre dans une chambre d'hôpital, par exemple. Et puis, en tout cas, on peut y penser souvent, à cette phrase. Donc, il y a des questions comme ça, oui, bien sûr, qui me semblent essentielles. Mais c'est des questions et aussi des propositions. Tout le travail pour aller dans plus de joie, pour moi, en tout cas dans ma compréhension, c'est quitter le mental. Donc, c'est vivre une expérience. C'est aller au-delà des mots, puisque la joie, c'est au-delà des mots. Donc, je vais peut-être poser une question, peut-être faire écouter une musique. Là, on est au-delà des mots si je fais écouter une musique. En tout cas, c'est viens, on vit une expérience. Et après, on revient et tu me raconteras. Mais viens, on vit une expérience. Je crois beaucoup en ça, aux expériences.
Est-ce que justement, toi, il y a une rencontre, une expérience de rencontre que tu choisis de cultiver en termes de souvenirs, tellement elle t'a transformé ou retourné, pour reprendre le terme que tu évoquais tout à l'heure?
Ben, ça revient avec l'histoire de la conscience, en fait, parce que je pense à un homme que j'ai accompagné et qui m'a vraiment impressionnée parce que j'ai eu la chance de l'accompagner plusieurs fois, où j'ai senti ce retournement. Et alors que je pensais qu'il n'était pas du tout possible, parce que cet homme, il avait une très grave maladie, donc une maladie incurable, qui est devenue incurable, on ne savait pas trop, mais bon, c'est une grave maladie au niveau du cœur. Et quand je vais le voir, je savais par le personnel soignant que sa femme venait de faire un AVC. Donc cet homme, quand même, est tellement fatigué par sa maladie, à tous les niveaux, physique et psychique. Et en plus, et c'est une histoire d'amour incroyable, sa femme, c'est toute sa vie. Et il sait que sa femme est dans un autre hôpital, il ne peut même pas aller la voir parce que lui aussi, il est hospitalisé. Et franchement, je le vois dans ces conditions-là. Et au début, il pleure. Et j'accueille ses pleurs et je me suis dit, dis donc, moi je suis docteur de la joie, je m'en voulais presque de venir comme ça en personnage, même si je sais que moi je suis porteur de joie et je réveille la joie si c'est possible. Mais j'étais vraiment mais désemparée en fait face à cet homme et en même temps je me dis, mais il faut sortir du drame. Mais comment on sort de quelque chose qui est apparemment quand même assez dramatique? Et donc, je cherche un petit peu, puis je lui dis, non, mais de toute façon, non, je ne vais pas te faire sourire parce que il croit que je suis là pour le faire rire. Je lui dis, non, non, mais je ne me permettrai pas, de toute façon, je ne vais pas te faire sourire. Et je dis ça, et puis je cherche ce que je peux faire avec lui. Et ce qui est incroyable, parce que je ne me souviens plus bien comment ça s'est passé, mais ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, je lui dis, faut quitter cette tristesse, il faut quitter cette apparence de drame. Et je vais lui faire méditer. Et en fait, je vais faire sourire toutes les cellules de son corps. Alors, je m'étais dit juste avant, non, non, tu sais, je ne vais pas te faire sourire. Et puis, une demi-heure plus tard, je fais méditation du sourire. Alors, méditation du sourire, c'est qu'on fait méditer, c'est qu'on imagine que le cerveau sourit et toutes les cellules du cerveau se mettent à sourire. Et après, les oreilles se mettent à sourire. Et en fait, après, il y a tout l'être qui sourit. Mais là, je n'ai pas oublié sa peine. Et j'ai dit, maintenant, tu envoies un sourire à la femme que tu aimes. Et elle le reçoit. Et donc, le fait qu'il ait pu envoyer de l'amour, un sourire, et je lui disais, mais tu sais, elle doit le recevoir, là. Et qui, d'abord, il s'est réapproprié un espace de sourire en lui qui était mais très, très, très loin. Et en plus, il a pu l'envoyer. Et quand il a ouvert les yeux, mais il allait tellement bien. Et il m'a dit, mais merci. Après, on a mis des cœurs dans sa chambre. J'ai mis la photo, enfin, j'ai mis le prénom de sa femme pour dire elle est là. Mais ce qui m'a impressionnée dans cet accompagnement, c'est sa force. À un moment donné, il se laisse embarquer et il ferme les yeux et il sourit partout. Non, mais il sourit pas un petit peu, c'est partout. Ça m'a impressionnée. Et lui, en plus, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Et à la fin, justement, il pleurait. Et c'était pas longtemps avant sa mort, il me disait à quel point il était ému de tout et qu'il prenait le temps de tout. Et c'est ça qu'il avait appris sa maladie. Ce que j'ai dit, mais ça t'apprend quoi cette maladie? Toujours en fait, essayer d'extraire du positif de quelque chose, une descente, hein, parce que descente en tout cas au niveau du corps, parce que ça va vers la mort. J'ai dit, mais ça t'apporte quoi? Mais toujours comme ça, en lumière, pas en tristesse, ça t'apporte quoi? Il me disait, mais. Eh ben, par exemple, je passe une demi-heure chez Alinéa pour regarder les lumières. Avant, je n'aurais pas fait ça. Mais là, je passe une demi-heure à regarder chaque lumière. Et même quand je vais faire les courses, le jambon, je vais rester peut-être un quart d'heure au rayon jambon, je regarde les différentes couleurs aussi. Non, mais incroyable. Il me dit, je ne savais pas que je savais faire ça. Ça m'impressionne. Je suis très, très impressionnée et reconnaissante de ces états de joie. Et pour finir avec cette histoire, il me dit, à la fin, je suis vraiment reconnaissante de qui il est. Et il m'a dit, mais tu sais, quand je t'ai vu, pour la première fois, et la première fois, c'était la fameuse fois où sa femme venait juste de faire un AVC, il m'a dit, en fait, avec ta présence, j'ai senti que j'avais le choix. Ou alors, j'étais en fait devant un quai de gare, comme ça, et j'étais dans le train. Et il est divisé en deux. Il y en a un, ça partait dans le mur. C'était fini, quoi. Et l'autre rail emmenait vers l'infini. Et c'est toi qui amenais ça. Et j'ai pris ça. J'ai pris l'infini. Oui, bah lui, c'est des joies. Mais là, pour le coup, c'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour lui. Mais imagine ce que ça me fait. Et qu'il ait senti que oui, j'amène l'infini. J'amène ça. Ouais, et bah, il l'a saisi. Donc, encore une fois, ce n'est pas moi qui suis extraordinaire. Ce sont les patients en qui je réveille un espace d'infini. Et il y en a qui vont le saisir. Et lui, il l'a saisi. J'adore.
Oui, et ce que je trouve très précieux dans ce que tu partages là, Sandra, c'est combien est-ce qu'il n'y a pas de magie dans tout ça, si ce n'est que ce que tu crées comme espace possible, c'est d'aller activer les ressources qui sont déjà là, qui sont en chacun. Et après, c'est le choix de chacun d'activer ou de ne pas activer. Voilà, et c'est là, on peut parler de magie si on veut, mais en tout cas, il y a d'abord effectivement une proposition que tu fais. À partir de ton expérience, de ton vécu, de tout ce que tu as appris et que tu transmets aujourd'hui. Mais il y a fondamentalement le choix d'une personne derrière de prendre la responsabilité et la liberté de choisir d'activer ses ressources de joie, en fait.
Et ça, c'est pas incroyable, ça ? Moi, je trouve ça mais plus qu'incroyable. C'est vraiment émouvant. Et c'est bien pour ça que pendant toutes ces années, j'ai fait ce métier, parce que maintenant, je suis beaucoup plus en transmission, parce que j'aide les soignants et j'aide d'autres personnes à devenir une étoile. Donc, ce métier que j'ai tellement fait, parce que j'ai vécu de telles joies. Après, ce n'est pas tout le temps ça, parce que lui, il avait cette prédisposition à l'infini, mais qu'il ne connaissait pas au départ, mais ça s'est réveillé à mon contact, mais il l'avait. Et puis, il y en a, ils ne vont pas accepter. Et il y en a, ils vont être en colère. Et il y en a, ils vont être désabusés. Et ça ne va pas être possible. Oh, et tout ce travail d'accepter de se dire, je n'y peux rien. Je n'y peux rien s'il a accédé à cette grande joie. Je n'y peux rien s'il n'accepte pas à cette joie. Je ne peux, je peux rien. En fait, je ne peux vraiment pas grand-chose. Hein. Et c'est ça l'accompagnement, c'est accepter qu'on ne puisse rien. Et dans ce rien, il y a tout qui est possible. Mais ce n'est pas nous. C'est la rencontre, c'est les mémoires qu'on va réveiller. Moi, je pense qu'on est dans un bain de mémoire fondamentalement et à notre contact, ça va se réveiller. Mais si la mémoire n'est pas existante et on peut aussi réveiller une mémoire entre guillemets négative, une mémoire douloureuse, et c'est là que tout d'un coup, c'est la catastrophe. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais tranquille, tu n'as rien dit de particulier, seulement tu as réveillé une mémoire. Et elle est douloureuse. Et tout le travail d'une étoile, tout le travail que j'ai pu faire, c'était pour réveiller les mémoires positives. C'est réveiller la lumière dans l'obscurité. Et c'est réveiller les potentiels que les gens ont. Et des fois, ils ne le savent même pas. Mais je dis, mais tu te rends compte la force que tu as pour vivre ça? Et donc, je vais renvoyer leur force, renvoyer leur lumière, renvoyer leur joie. Ça, c'est ma fonction. Parce qu'après, l'ombre, on la vit au quotidien. Hein.
Et de ce que tu dis là, effectivement, on perçoit combien c'est encore une fois un chemin d'une vie, hein, que c'est de l'ordre de l'apprentissage incessant, infini. Et en même temps, toutes les interventions que tu fais, que tu as fait toi en hôpital et que tu accompagnes aussi dans la transmission, puisque tu formes aussi des soignants, puis tu formes d'autres étoiles à intervenir auprès des grands malades et des personnes en fin de vie, on voit bien que vous arrivez à un moment où effectivement l'embranchement que décrivait cet homme que tu accompagnais, il est très net. Soit on y va, et je crois en cette possible d'infini, ouais. Y compris dans mes circonstances de vie, soit je prends le chemin qui, je dirais, est tristement le plus classique dans ces circonstances-là, où on va droit dans le mur, comme il l'a décrit. Et donc, on voit combien, oui, on a potentiellement tous des ressources qui peuvent être activées, mais que ces moments de vie-là ou de fin de vie sont un peu des points de non-retour, c'est-à-dire que soit on va y aller, soit on n'y va pas du tout. Donc, ça parle de l'importance de très en amont de ces moments de vie-là sans retour, d'aller cultiver ça et d'aller accompagner cet apprentissage-là. Et donc aujourd'hui, tu interviens justement de plus en plus en amont, finalement, à ce moment-là, dans le contre-pied, la contrepartie, le contrepoint, c'est-à-dire dans les écoles. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir justement cette autre modalité d'intervention pour créer de la joie auprès de ce public d'enfants?
Bah, tu fais une excellente transition parce que c'est exactement ça. Je me suis rendu compte, et c'était le constat de toutes ces années, que la plus grande inégalité, c'est l'inégalité de la joie. Mais on n'est pas du tout pareil. Et on n'a pas nourri les mêmes espaces d'intérieur. Et moi, je m'en suis rendu compte au dernier moment. Je fais, oh là là, mais ça n'a pas été nourri, ça. Oh, ça a été nourri, ça. Et donc, c'était étonnant de voir ces endroits nourris et pas nourris. Et à un moment donné, il y a eu une évidence. Je dis, bah non, bon, j'ai vraiment envie de le dire aux enfants. Il faut nourrir ces espaces de joie. Enfin, il faut. Si vous voulez être heureux dans la vie, il serait peut-être intéressant déjà de s'interroger sur quelle est qu'est-ce que la joie, effectivement, mais et donner la possibilité à un enfant, dès les petits âges, comme ça, de sentir que la plus grande joie, elle est intérieure. Parce que c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Enfin, fondamentalement, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, quand on est en fin de vie et qu'on peut encore accéder à des grandes joies, c'est bien parce que la plus grande est intérieure. Et souvent, c'est dans le lâcher-prise, d'ailleurs, la plus grande joie. Et donc, du coup, pour les enfants, j'ai dit, mais il faut les éduquer à la joie. Et je ne voulais pas créer un dispositif qui serait à acheter dans les supermarchés. Et d'ailleurs, tant mieux si ça existe, hein, en grande distribution, je veux dire. Mais je voulais que ce soit une éducation. Je voulais que ce soit dans une pédagogie. Alors, c'est quand même plus complexe, ça demandait une adaptation, ça demandait aussi de rencontrer une maison d'édition qui m'a fait travailler la pédagogie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est vrai que je suis très heureuse maintenant et je sens que ça fait partie de ma mission, mais je n'oublie pas les étoiles. Et comme je dis toujours, je suis toujours en transmission, en accompagnement. Mais j'ai créé un dispositif qui s'appelle Terre de Joie. Et ça, c'est pour les enfants à l'école, pour qu'on les éduque à fermer les yeux. Ouais. Et qu'on les éduque pas qu'à fermer les yeux, à être créatif, parce que la grande joie, c'est aussi se sentir créateur. Et c'est toujours pareil, c'est le même message que je délivre. C'est-à-dire que c'est la même journée d'école, il n'y a rien qui change. Oui, mais moi, je change à l'intérieur. C'est toujours cette idée de, il n'y a rien qui change à l'extérieur, mais si je change à l'intérieur, il y a tout qui se change. Et surtout, j'ai permis aux enfants de devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi ? Donc, c'est un enfant, bien sûr, qui ferme les yeux, qui vit de grands espaces de joie. Et aussi, et je dirais même, et surtout, je ne sais même plus si c'est surtout, et aussi, mais qui va la donner. Donc, les enfants qui sont des héros de la joie, c'est qu'à tour de rôle, ils peuvent devenir un enseignant, enfin, ils prennent la place de l'enseignant et ils vont inventer, comme j'ai pu le faire beaucoup à l'hôpital, des pratiques de joie. Eh bien, ferme les yeux, respire profondément et prends le temps. Et là, ils inventent. Et ils inventent des merveilles. Et ils se sentent d'un seul coup. Et ils sentent une chose. C'est la joie dans leur cœur d'avoir embarqué toute une classe à vivre plus de joie simplement par l'intention, par la puissance de l'imaginaire, la puissance de l'intention et de la respiration, et d'avoir fermé les yeux. Je pense qu'en vivant cette expérience enfant, j'espère qu'ils ne vont jamais l'oublier. Et c'est un principe aussi coopératif. Et je me dis que si on met, ou plutôt possible, les enfants dans un principe coopératif, waouh, mais c'est le futur, ça. Mmh. Arrêtez que compétitif et tout le système est compétitif et d'un seul coup le système coopératif, c'est est-ce qu'on va être plus heureux tous ensemble? C'est juste ça la question fondamentale que j'amène au sein de l'école. Est-ce qu'on peut être plus heureux tous ensemble? Ben oui, on va fermer les yeux ensemble, on va respirer ensemble et on va inventer ensemble des pratiques de joie. Donc autant te dire que je me sens pleinement dans ma mission et que pour moi c'est la même chose. Quand j'ai accompagné les gens en fin de vie, j'espérais qu'ils puissent trouver une joie intérieure au-delà de ce qu'ils vivaient extérieurement. Et c'est pareil chez les enfants, j'ai envie de leur dire, mais des outils pour la vie. Je voulais leur donner des outils pour la vie. Donc, je suis très impliquée. Ouais.
Oui, puis ce que je trouve très joli, c'est effectivement, à nouveau, d'apporter cette conscience et le plus tôt possible que la joie est un choix, c'est-à-dire qu'on peut être acteur de sa joie et qu'on ouais. n'a pas besoin de s'en remettre à quelqu'un d'autre, aux circonstances notamment, pour se dire « s'il m'arrive ça, alors je vais être heureux, joyeux, bien, etc. » Mais plutôt, comment est-ce que je suis ma première ressource et comment est-ce que, grâce à ces yeux que je peux fermer, j'arrive à créer, à générer un monde ou à réactiver un monde qui me permet d'être dans une joie profonde, presque instantanément, individuellement. Et comment est-ce que je peux prendre aussi la responsabilité de contribuer au choix de la joie de manière collective. Et ça, c'est très puissant. On le voit avec les enfants, ça peut être
Non, mais j'espère qu'ils vont jamais l'oublier, mais je sais qu'ils l'oublieront jamais. D'ailleurs, j'ai déjà des retours, parce que ça fait quand même maintenant 2 ans que ça existe vraiment dans les écoles, et j'ai des retours d'enseignants qui me disent, mais tu sais, mes enfants que j'ai eus et qui sont à la classe supérieure, l'enseignant me dit, tu sais qu'ils ne sont pas pareils que les autres. Ah, c'est réussi. Si pendant un an, il y a eu cette énergie quand même de joie, de véhiculer la joie et l'altruisme, la générosité, l'altruisme, l'empathie, ça fait une société, ça. Non, c'est vrai que ça marche bien. Et surtout, comme tu disais, c'est vraiment la question de responsabiliser. Et j'ai vu les personnes en fin de vie. En fait, je pense vraiment que les personnes qui meurent le mieux, ce sont celles qui ont le mieux aimé. Et ils ont un sentiment comme ça d'avoir fait tout ce qu'il fallait au niveau du cœur. C'est un secret. D'ailleurs, si vous voulez bien mourir, faites tout ce qu'il faut au niveau du cœur. Hein. Parce que sinon, attention, les regrets, les remords, les... Non, alors, mais les gens qui ont le mieux aimé, qui ont dit, mais moi, j'ai fait vraiment, j'ai beaucoup aidé dans ma vie. J'ai... Oh là là, ils sont en paix, c'est un bonheur. Hein. Donc, j'ai voulu le dire tout de suite aux enfants aussi, mais donnez de la joie, vous verrez, ça va vous apaiser, en fait. En fait, c'est transmettre une culture de la paix intérieure, de la joie, ça me semble vraiment essentiel. Et en fait, et en plus, c'est assez simple, il fallait juste y penser. Et puis surtout, au niveau de notre pédagogie qui est tellement mentale, aider les enfants à être créatifs, mais en fait, ils sont créatifs en plus, mais le valoriser, ça me semble important. On sait que 80% des métiers vont être à faire là, dans les années à venir. C'est incroyable un petit peu la créativité qu'il va falloir qu'on développe. Et en même temps, on est toujours dans un système quand même qui n'est pas très créatif à l'école. J'ai dit non, il faut changer ça. Mais ce n'est pas grave, on va le changer. Et les profs sont partants aussi. Il faut former aussi les profs, il faut aussi les aider. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller les aider. Enfin, d'après ce que j'ai compris de la vie, de mon petit endroit. Hein. Mais je pense que si chacun donne son petit endroit de ce qu'il a compris fondamentalement, ça fait une belle société. Si tu me donnais le meilleur de toi, parce que moi, je pense sérieusement que quand j'offre ça, quand j'offre Terre de Joie, quand j'offre une étoile, sérieusement, j'offre le meilleur de moi. Je ne peux pas offrir plus grand, la plus belle version de moi-même. Je ne pouvais pas faire mieux que ce que je fais. Mais je me dis, mais si on met les gens en cette réflexion, toi, là, quand tu fais ça, par exemple, peut-être que tu te dis, là, en ce moment, je fais peut-être la chose la plus cohérente, qui a le plus de sens pour moi. En tout cas, ça a un grand sens. Et je donne la plus belle version. Là, tu es en train de me donner ta plus belle version de toi-même. Et moi, j'ai envie de je t'offre aussi ma plus belle version de moi-même. Mais si les gens, en ce moment, se mettaient à donner les plus belles versions d'eux-mêmes, waouh ! En fait, c'est aussi simple que ça. C'est parce qu'ils étaient happés par quelque chose de qui nous happe, hein. La tristesse, l'amorosité. Ils disent, mais alors, attends, j'ai le choix là. Je peux quand même offrir ma lumière. Je peux offrir la plus belle version de moi-même. Ça, je peux le faire. Et donc, c'est ce que je décide de faire. Et ça, on a le choix. Je veux dire, on a le choix. Et d'ailleurs, dans les pays, tu sais, quand je suis partie en Inde, j'ai vu tellement de gens pauvres qui offraient quoi ? Ils offraient le meilleur d'eux-mêmes. Quand ils m'offraient leur sourire, comme ça, dans la rue, oui. Je disais, mais merci. En fait, on n'est pas dans une culture où on offre le meilleur de nous-mêmes. Nous, des fois, on offre un peu au râle, on est en colère. Mais est-ce qu'on pourrait offrir le meilleur de nous-mêmes ? C'est une société là, qui se transforme. Si chacun, tous les matins, se disait « Tiens, je vais offrir la plus belle version de moi-même aujourd'hui. » Mais tu te rends compte ? Mais ouais, c'est aussi simple que cela. Mais après, il faut quand même avoir de la ressource. J'entends bien aussi que quand je dis ça, c'est parce que j'ai pu me pacifier. J'ai pu peut-être pleurer. J'ai pu peut-être faire tout ce qu'il fallait pour offrir la plus belle version.
Oui,
on a le choix quand même.
C'est ça, tu as pu et tu as choisi de le faire parce que c'est aussi un travail qui est un travail exigeant, qui est un travail d'aller se connaître, de faire ce qui n'est pas le chemin le plus aisé, qui est par définition le chemin le moins emprunté, puisque tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas, voilà, il n'a pas été emprunté avant nous, puisque ça parle de notre singularité. Donc c'est faire ce choix conscient et exigeant d'aller se connaître et d'aller s'observer un peu dans sous toutes ces coutures. Mais une fois que c'est fait, c'est comment est-ce que effectivement, en me connaissant, je connais ma singularité et je peux choisir à nouveau d'aller partager ça et de voir comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand. Et ce que tu dis là, à la fois dans ce que tu transmets dans ta pratique auprès des mourants, mais aussi avec les enfants, c'est comment est-ce que tu partage ta singularité,
C'est ça.
Et ta singularité, bien sûr, qui inclut tes expériences, tes compréhensions, etc. Mais surtout ta singularité et comment ça, ça peut s'expandre dans la relation, dans le contact, dans la mise en lien avec l'autre, pour que bah, ça fasse par capillarité, qu'il y ait une forme de, voilà, de rayonnement comme ça et qu'il y ait une contribution et bah, tout se nourrit et c'est ça qui est merveilleux.
Mais complètement, et tu sais, le mot singularité, il est beau ce mot, et ça veut dire aussi une réconciliation avec son ego. Je dois dire que je me suis posé beaucoup de questions hein, sur l'ego, faut en avoir, pas en avoir, mais en même temps, mais l'ego au service de l'âme, c'est très beau ça. L'ego au service d'un plus grand que soi, mais c'est très beau, c'est très utile, et puis heureusement, alors il faut que j'aime cet ego. Pas démesurément, il faut que je l'aime, et puis surtout que j'aime au-delà de cet ego. Et en fait, la singularité me semble très importante, et c'est un chemin pour aller dans sa singularité, ne pas se comparer, ne pas dire « oh là là, je ne vais jamais y arriver ». Non, c'est à chaque fois se faire confiance, dire mais la singularité, c'est se dire « j'offre le meilleur de moi-même ». Et si on se dit ça, on peut dépasser cette question du jugement, on peut dépasser oui, cette question de la légitimité aussi. Parce qu'on peut dire, est-ce que je suis légitime ? Mais si tu es honnête, si honnêtement tu fais ça avec tout ton cœur, l'honnêteté, moi j'aime bien l'honnêteté. Mais effectivement, j'accompagne beaucoup les gens dans leur singularité. Justement, quand ils font un stage pour être une étoile, je dis, mais le plus important, ça ne va pas du tout être une étoile. Hein. Plus important, ça va être d'être vous, avec votre singularité. Peut-être que ça va être complètement une étoile, ça va correspondre complètement à qui vous êtes, mais chaque étoile est différente d'ailleurs. Hein. Et peut-être que vous allez prendre un petit bout de ça, vous allez en faire autre chose et vous allez créer une autre galaxie, je ne sais pas. En fait, j'encourage chacun à être singulier et à rayonner, oui, rayonner son être. Ouais. Et puis surtout, le plus grand que soi, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai l'impression que si on dit ça aussi aux enfants, ouais, c'est un joli message. C'est un joli message.
Et comment est-ce que, puisque tu accompagnes, alors il y a les enfants, puis tu l'exprimais aussi, tu accompagnes des futures étoiles, donc tu transmets cet art d'accompagner notamment les grands malades, les personnes en fin de vie. Comment justement, puisqu'on c'est le moment aussi de la création de ce personnage féerique qui va accompagner l'intervenant tout au long de son parcours et dans sa création de lien avec le malade. Comment tu accompagnes finalement le jaillissement, je ne sais pas si on peut parler de jaillissement, de cette singularité de ce personnage qui va faire... oui, qui va faire naître, qui va permettre de tirer ce fil d'une singularité. Ouais.
C'est extraordinaire à vivre. Hein. Mais effectivement, c'est un jaillissement et il y a plusieurs stages. C'est-à-dire que c'est le dernier stage où il y a le personnage. Et on voit qu'au fur et à mesure, ils vont, les stagiaires, au début, ils ont une représentation. Et après, ils disent « Ah non, ça ne va pas être simple, ça va être quelqu'un d'autre. » Et surtout, quand je les invite à devenir ce personnage, c'est un personnage, bien sûr, fantastique, merveilleux. Le rapport au merveilleux est important parce que je me suis rendu compte que les patients, s'ils étaient émerveillés, c'est cet enfant intérieur. Hein, l'état d'émerveillement donne de la joie. Donc, il va falloir trouver un personnage qui amène l'émerveillement, mais pas trop inaccessible non plus. Il faut qu'il y ait un truc qui cloche, il faut qu'il y ait un truc très humain parce que sinon, l'émerveillement aussi peut éloigner. Alors, c'est un émerveillement plein d'humanité. Donc, il faut que ce personnage, c'est comme si Chaplin, hein, Charlot, il vient dans ma chambre, il est quelque part merveilleux. Hein. Pour moi, c'est quand même le maître des clowns. Il est merveilleux à sa façon, mais parce qu'il a une humanité incroyable, il est beau aussi, il est beau, une étrange beauté. Mmh. Et donc, j'invite à être dans son étrange beauté. J'ai l'impression que j'étais perdue, non, ça va. Et j'invite à être dans une étrange beauté, mais pleine d'humanité. Donc tout ça, dis donc, c'est un sacré accompagnement. Et parce que parfois, il y en a qui vont commencer à être très grimés, très comiques, tout ça. Je fais, mais t'es pas assez belle, t'es pas assez beau. Non, il va falloir créer de la beauté. Mais c'est une beauté étrangement belle, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai encore une plus grande bouche, j'ai des plus grands yeux, j'ai des plus grandes oreilles, enfin, je veux dire, c'est... Parce que c'est une beauté lumière. Donc, on va chercher cette beauté lumière et en même temps, qui est très accessible. Parce que, attention à l'ange qui serait beaucoup trop loin, enfin, on dirait oh là là, je ne mérite pas. Mais bien sûr que si, tu mérites. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui soit ouais, complètement accessible. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des lutins, des elfes, il y a des personnages comme ça. Et puis après, c'est des personnages, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils sont juste enchanteurs. Je crois beaucoup à l'énergie de l'enchantement, quoi. En tout cas, oui, c'est plusieurs stages. Hein.
Oui, j'imagine. Et ce que j'entends d'extrêmement intéressant et qu'on peut finalement étendre à cette notion de singularité chez les enfants, c'est cette idée de, on parlait tout à l'heure d'être présenter la meilleure version de soi-même. C'est une expression qu'on entend beaucoup, notamment dans le monde du développement personnel. Et je crois que c'est une expression qui peut faire peur aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment bien, il faut que je m'améliore pour un jour avoir le droit de... comme si il y avait un manque à combler quelque part. Or, ce qu'on dit là, c'est non, il y a une beauté intrinsèque. Peut-être qu'il y a des choses sur le chemin qui gênent et qu'il va falloir tailler, enlever, élaguer, mais il n'y a rien à ajouter. Il y a peut-être juste des choses à retirer, mais il n'y a rien à changer, à ajouter. Et cette beauté, plus on va être conscient de cette beauté, plus on va en prendre soin, plus on va aller voir aussi sa porosité. Quelque part, c'est ces petites anicroches de ci, de là, mais qui vont nourrir cette singularité. Eh bien, c'est là que la beauté singulière va jaillir, et que ce n'est pas une beauté qui n'est pas inaccessible, c'est pas cette image lisse, parfaite et sans irrégularité qu'on va chercher à viser, que ce soit chez une personne ou chez un intervenant qui accompagne d'ailleurs, mais c'est vraiment qu'est-ce qui fait que tu es toi singulièrement.
Ah oui, oui, et je pense que plus on va trouver ça en nous, mais ça peut être dans les aspects La maladresse, si elle est complètement habitée, mais c'est un bijou. D'ailleurs, Chaplin, hein, Charlot est maladroit. Donc, c'est tout offrir de nous. Moi, quand je dis la plus belle version de nous-mêmes, c'est la plus grande version de nous-mêmes, pour moi, c'est je t'offre tout. Intérieurement, c'est bien l'état dans lequel je suis. Hein. J'arrive, je vois une personne et je suis tout offerte. Mais j'offre tout. Mais je n'ai même pas besoin de le dire, ça se voit. Et la personne en face, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle m'offre tout. Et puis, cette question de la singularité, si moi, j'ose être singulière, l'autre aussi ose être singulier. Mmh. Et c'est cette acceptation totale de soi et de l'autre qui me semble vraiment intéressante. Mais c'est ça, la beauté. C'est pas masqué, en fait. C'est pas masqué quelque chose qu'on n'aimerait pas de nous. Je sais qu'au début, parce que mon personnage, forcément, il évolue hein, toutes ces années. Hein, au début, j'avais un personnage, j'étais très amoureuse. Mais après, au mauvais sens du terme aussi. Hein, j'étais vraiment une Annabelle, toujours. Et après, mais plus je jouais ça, plus je m'en libérais. Et j'avais plus besoin. Après, quand je dis amoureuse, c'était aussi séductrice. Mais après, j'en ai plus du tout eu besoin. Puisque je jouais cet aspect, alors que j'aimais pas tellement de moi, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je séduise, ça fait des années. Hein. Et puis, à un moment donné, je le vivais tellement, je fais, non, mais c'est bon, quoi, je peux lâcher ça. Et en lâchant ça, j'avais encore quelque chose de plus grand qui allait venir. Mais en tout cas, comme tu disais, au fur et à mesure, on va affiner d'abord qui on est, on va affiner notre personnage. Il faut surtout pas que ça nous empêche de commencer. Parce qu'en même temps, sinon, il faudrait qu'on soit arrivé à la perfection pour accompagner les êtres qui sont en partance, pour faire quoi que ce soit dans notre vie, il faudrait qu'on soit parfait. Non, 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 non. Par contre, il faut s'accepter. Mais en fait, c'est des grands mots, tout ça, mais enfin, d'ailleurs, il y a un travail. Hein. Mmh. Ça prend du temps, tout ça. Et je ne sais plus qui disait ça. Oui, c'était drôle, ça. On m'a rapporté ses propos. C'est quelqu'un qui... c'est un enseignant de communication. Il dit, vous allez dessiner votre voisin. Vous avez une minute pour dessiner votre voisin. Alors, vite, les gens, ils dessinent le voisin. Après, vous montrez à votre voisin. Alors, quand il montrait, il était désolé. Il dit, oh, pardon, je t'ai fait comme ça. Il dit, vous savez, maintenant, quand je fais cette expérience avec des enfants de 5 ans, et bien, à 5 ans, l'enfant, il fait « Tiens, tiens, regarde !» Vous avez vu ? Et vous disiez « Oh, pardon !» C'est toute la différence. L'enfant, il s'offre totalement. Et c'est cette offrande-là. C'est pas parfait, mais « Tada ! Regarde ce que j'ai fait pour toi !» Et je pense que c'est cet état-là qu'il faut retrouver aussi. et de non-jugement de soi. Il dit, vous avez vu combien vous vous jugez? Ah, bien sûr, il n'était pas parfait, votre dessin, mais vous auriez pu dire, tiens, regarde, vous auriez pu rire aussi. Non, vous avez été gêné. Donc, c'est toute cette réflexion. Est-ce qu'on peut s'offrir totalement à l'autre? Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on s'offre totalement à soi. Mine de rien, c'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. Hein.
C'est pas si facile. C'est simple, mais c'est pas si facile. Ouais. Pour finir, j'avais envie de te poser la question que tu as évoquée tout à l'heure. Je suis curieuse de savoir, même si tu nous as partagé des éléments, qu'est-ce qui, toi, Sandra, te rend plus grande?
Alors, étonnamment, parce que moi qui suis tellement relationnelle, j'aime tellement les autres. Je me nourris de la création. Quand je suis en création, ça me rend plus grande. Mais ce qui vraiment me rend plus grande quand même, c'est de... Ça va passer par fermer les yeux ou être dans la nature. Alors, hein, la nature, ça me rend plus grande. Un beau paysage ou être près de... Ouais, ouais, être dans la nature, dans un endroit que je ne connais pas ou même que je connais. Et là, d'un seul coup, je sens que j'ai l'impression d'être complète. J'ai l'impression d'être complète et je ne fais rien. Mais j'ai deux aspects en moi, hein, parce que là, c'est la grande joie d'être comme ça, très, très contemplative. Je suis très contemplative. Et la grande joie, c'est quand même d'offrir la plus grande version de moi-même. Ça, c'est une grande joie aussi. Quand je suis dans mon personnage, par exemple, quand je suis sur scène ou quand je suis en accompagnement et que d'un seul coup, c'est plus du tout mental. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est l'intuition pure, c'est de la vitalité pure, c'est de la joie, c'est de la non-réflexion. Et puis, je sens que je rends les gens heureux. Je dois dire que non, hein, mes grandes joies, c'est quand même quand je sens que les autres ont accès à une grande joie et qu'ils sentent que c'est encore plus grand. Mmh. Ils se sentent peut-être plus grands à mon contact. C'est aussi une grande joie. Mais la contemplation, quand même. Peut-être que je mets ça en premier.
La contemplation pour permettre ensuite l'expansion.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est beaucoup visiter à l'intérieur. C'est ma grande joie.
Merci beaucoup, Sandra.
Merci à toi, merci pour cette interview. Et bon, j'espère que ça vous donnera à tous envie de rayonner, d'être à votre place. Mais d'être à sa place, c'est pas forcément changer de métier aussi. Hein. C'est d'être là.
Et là, c'est un point essentiel qu'on a évoqué à nouveau autour du choix. Ouais. C'est qu'on n'a pas besoin de tout changer pour que tout change.
Exactement, c'est une très belle conclusion. Ça reprend un peu la devise de mon association, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Pour moi, ça veut tout dire.
Merci beaucoup, Sandra.
Merci beaucoup.
À bientôt. À bientôt.
Un grand merci à Sandra pour sa confiance, sa sincérité et sa joie partagée. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Sortez vos agendas et surtout, surtout faites-le. Je vous invite à me partager vos retours par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de découvrir de quelle manière les conversations que je vous propose résonnent en vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur Sandra, son travail, son actualité ou encore son jeu Terre de Joie, direction le site sandrameunier.com. Si vous êtes lassé de votre quotidien agité en surface, le nez collé au guidon, et que vous aspirez à une vie choisie où vous faites enfin les choses à votre manière, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance. Alors, si vous avez envie de changement sans vraiment savoir par quel bout prendre les choses et que vous réfléchissez à vous lancer dans un coaching, je vous invite à me contacter via mon site oriannesavoureduca.com et à prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons explorer ensemble dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriannesavoureduca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de votre semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une belle constellation et un avis sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?